Je vous invite à trouver l'évangile de Jean, chapitre 16, encore. Excusez-moi, je suis un peu coincé là. Okay. Jean, chapitre 16. Et nous relisons ces versets 1 à 11 que nous avons lu il y a 2 semaines. Dans la chambre haute, la nuit avant sa crucifixion, notre Seigneur parle de cette manière. Je vous ai parlé ainsi, donc de l'opposition du monde, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, et voilà la partie qui nous concerne ce matin, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Seigneur nous laisse une promesse très grande et glorieuse ici. Nous avons besoin constamment, parce que nous sommes des témoins. Nous avons besoin que ce monde comprenne le péché, la justice et le jugement. Et nous voyons à quel point nous ne pouvons pas les convaincre. Convaincre, le mot en grec est très fort. Oui. Amener quelqu'un à être complètement convaincu de manière à changer radicalement de position et se plier devant la vérité. C'est ça, le mot est très fort. Et la promesse est que Dieu lui-même, l'Esprit, viendra dans le monde et sera présent dans le monde là où vous êtes là en tant que témoin, les chrétiens. Et lorsque vous parlez de l'Évangile, il convaincra le monde de ces trois choses. Et nous voulons comprendre pourquoi ces trois choses et comment est-ce que cela peut aider notre conception de ce que c'est que faire part de l'Évangile, de la bonne nouvelle à quelqu'un. Et qu'est-ce que nous devons prier le Saint-Esprit de faire? Et donc nous allons essayer de comprendre que le monde a besoin de comprendre la nature de l'homme comme pécheur, convaincre du péché. Le monde a besoin de comprendre la solution au péché, la justice de Christ qui remet les choses d'aplomb. Et le monde a besoin de comprendre le jugement. Le jugement, c'est-à-dire la raison, le jugement qui vient, la grande raison urgente pour laquelle il faut qu'on fuit le péché en embrassant la justice de Christ qui sauve. Donc, nous pouvons résumer ces trois points en disant qu'il s'agit du problème de l'homme, le péché, la solution de Dieu, la justice, et la raison pour laquelle il faut cette solution, le jugement. Nous allons aborder donc la première chose que nous devons dire à nos amis, et que le Saint-Esprit, si nous le disons, si nous en parlons, Si vous n'en parlez pas de ces trois sujets, le Saint-Esprit va pas convaincre vos amis, évidemment. Hein? Il convainc parce que c'est le sujet que les gens entendent. On est convaincu de ce qu'on entend et qu'on comprend. Mais donc, le premier sujet, c'est le problème de l'homme. Le problème de vos amis non chrétiens, c'est qu'ils sont dans un état de péché vis-à-vis du Créateur. Donc, pour chacun de ces trois points, je vais poser les mêmes questions. La première question, c'est quoi ce point? C'est quoi le péché? Alors, nous lisons le passage et Jésus dit, il convaincra le monde du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ce qui amène certains commentateurs à penser que Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde d'un péché précis, l'incrédulité. Il ne croit pas en moi. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Si nous regardons attentivement les propos de Jésus, il dit, il convaincra le monde du péché parce qu'il ne croit pas en moi. OK? Donc, le Saint-Esprit vient à travers notre proclamation de l'Évangile et il convainc vos amis qu'ils sont eux-mêmes dans un état de tort, parce que c'est ça le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est le fait de violer l'ordre de Dieu, de usurper les droits de Dieu et de se mettre ainsi en tort avec le Dieu de l'univers. C'est d'être dans un état de rébellion, de refus du vrai Dieu. D'accord? Il convaincra le monde qu'ils sont dans un état de révolte coupable et responsable et délibérée vis-à-vis du vrai Dieu. Pourquoi, deuxième question, pourquoi est-ce que vos amis ont-ils besoin d'être convaincus du péché? Ben, c'est très facile. Aucun fils prodigue ne revient pas à son père à moins d'être convaincu qu'il avait tort de le quitter. N'est-ce pas? On ne revient pas à moins de réaliser qu'on avait tort d'abandonner Dieu, de vivre en flagrant désobéissance de son ordre, de son plan. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le problème de l'homme, c'est que les émotions. J'ai un problème émotionnel parce que je me fâche avec mon conjoint ou mon enfant. C'est un problème émotionnel, pas moral. C'est pas que je fais un tort, que je suis mauvais, mais c'est émotionnel. Ou bien ils disent que nous ne sommes pas en contact avec les bonnes énergies. On doit se mettre en contact avec l'univers et je ne vais plus me fâcher avec mon enfant. N'est-ce pas? Mais la Bible dit quelque chose de très, très différent, de complètement différent, et le vrai problème de l'homme. C'est un problème que vos amis et vous, que nous avons vis-à-vis du Dieu qui tient l'univers, d'où nous venons et qui est le but, la source de toute existence. Tout marche selon ce qu'il est. Et le problème, c'est que je n'ai pas des émotions qui flottent dans la mauvaise direction ou un manque d'énergie impersonnelle, mais je me suis détourné de celui qui est vérité et bonté. J'ai rompu l'ordre de l'univers en me détournant de lui et de sa volonté morale, de ce qui est bien, parce que ça vient de lui et de son caractère. Donc, parfois, on veut que les gens reviennent à Dieu juste parce qu'ils veulent du bonheur. Mais tu ne peux pas revenir à Dieu parce que tu n'as pas de bonheur et tu veux le bonheur. Ça peut faire partie du problème, mais quand tu reviens à Dieu, tu ne peux revenir que par la réalisation que j'ai tort de ne pas être à lui et vivre en amitié avec lui. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui essaie de venir à Dieu juste pour avoir du bonheur. La femme samaritaine. Jésus dit, si tu savais qui j'étais et quel est le don de Dieu, tu me demanderais et je te donnerais de l'eau vive. Et cette eau deviendra en toi une source de vie éternelle. Elle dit, donne-moi cette eau. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il la convainc du péché parce qu'elle ne peut pas venir à lui véritablement à moins de venir comme quelqu'un qui réalise « Oh, j'ai tort !» Donc il dit « Cherche ton mari. »« Ah, je n'ai pas de mari. »« Ah, tu as raison. Tu as eu 5 maris et le 6e, tu n'es même pas marié. » Vous voyez? Donc si tu vas venir à moi, avoue que tu as cassé tout l'ordre de Dieu vis-à-vis du mariage et de la famille. Ta manière de vivre a été complètement en dissonance avec le plan de Dieu pour toi. Vous voyez? Comme ça, tu peux revenir en disant pardon. Donc voilà pourquoi vos amis ont besoin d'être convaincus du péché, parce qu'on ne revient à Dieu qu'en tant que pécheur. Ça va? Quelle est la preuve que vous pouvez apporter à vos amis qui sont dans cet état de tort vis-à-vis de Dieu, de péché? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va utiliser pour les convaincre dans un état de rébellion? Nous lisons encore le verset 9. Il les convaincra du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Dans chacune de ces trois phrases, Jésus donne la preuve. Dans la première partie de la phrase, dans la deuxième partie de la phrase. Il les convaincra du péché. La preuve qu'ils sont dans le péché, c'est qu'ils ne croient pas en moi. Maintenant, nous allons essayer de comprendre cela. Et pour cela, je veux vous demander de regarder une prédication le jour de Pentecôte dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et regardez avec moi le verset 37. À la fin de son sermon, Pierre dit ceci. Enfin, il vient de finir le sermon. Et dans le verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, ils sont convaincus qu'ils sont coupables, ils sont convaincus de péché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Après avoir entendu cela, ils étaient convaincus qu'ils étaient dans un état de rébellion. Or, c'est des gens qui croient jusqu'ici, qui sont moraux, qui sont religieux, que c'est eux qui ont raison. Quel est le cela? Quand ils ont entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Regardez le verset avant. Je vais peut-être remonter un tout petit peu. Verset 22, on va dire. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Et puis dans le verset 36, donc le verset juste avant celui que nous avons lu, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il convaincra le monde du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Et quelle est la preuve que Pierre présente ce jour-là? Il dit, Dieu lui-même s'incarne, il devient un homme, il fait devant vous des miracles que Dieu seul peut faire. Et quelle est votre réponse? Vous le crucifiez. Vous ne croyez pas du tout. Vous ne reconnaissez pas que c'est Dieu. Vous avez une attitude complètement incrédule et à tel point que vous le mettez sur une croix romaine. Vous vous pensiez tellement moral, mais quand Dieu vient et se présente devant vous, votre vrai état envers Dieu devient lucide, se révèle. Qu'est-ce que vous faites quand Dieu vient s'installer dans votre voisinage? Vous voyez, votre incrédulité, non pas d'une manière un peu vague au général, comme dans n'importe quel siècle, mais votre incrédulité en Israël, au moment où Dieu est là incarné devant vous, votre réaction à cela, votre incrédulité qui vous pousse à crucifier le Seigneur. Alors, maintenant, on en est clair par rapport à ce que vous êtes. D'accord? Vous élevez bien vos familles, vous priez tous les jours, vous êtes moral dans beaucoup de sens, et vous pensiez donc que vous n'étiez pas dans un état de rébellion contre Dieu. Quand Dieu arrive, on découvre que c'est complètement autre. Le Saint-Esprit convaincra le monde du péché en leur montrant voilà ce que l'homme fait lorsque Dieu vient tout près de lui. Comment est-ce que ça va aider vos amis qui n'étaient pas là? Ce qui est intéressant, c'est que même quand les apôtres prêchent à ceux qui n'ont pas crucifié le Christ, des juifs qui sont dans d'autres coins ou des non-juifs dans d'autres pays, ils disent la même chose. Ils pointent les gens vers le comportement de l'homme envers le Christ quand il est venu comme la preuve de l'état du péché de l'humanité en général, c'est-à-dire nous sommes tous le même. D'accord? Vous voulez savoir ce que c'est qu'un pécheur? Quand Dieu vient, qu'est-ce qu'on fait? Et on a besoin de montrer cela. Je vais juste vous donner un exemple dans le chapitre 10 du livre des Actes. Pierre prêche à un soldat romain et sa famille. Donc ce n'est pas des juifs, ils n'avaient rien à faire avec la crucifixion de Jésus. Et donc au verset 37, nous lisons « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissant Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. » Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et donc, quand les apôtres prêchent, ils insistent toujours que la réponse à la venue de Dieu parmi les hommes qui étaient là, c'était l'incrédulité complète et la haine et la crucifixion. Donc, je crois que nous aussi, nous avons besoin de montrer aux hommes que même s'ils tiennent bien leur famille, même s'ils ne montent pas au travail, ainsi de suite, il y a un moyen de savoir quel est leur état vis-à-vis de Dieu, et c'est de regarder à leur réaction par rapport à Jésus-Christ. Même aujourd'hui, montre-leur quel est votre réaction lorsqu'un homme vient évidemment de la part de Dieu, il fait le bien, il montre le chemin du retour à Dieu, ainsi de suite. Quelle est votre réaction? Alors, si cet homme est Dieu devenu homme, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre vraie attitude envers Dieu? Ça veut dire que lorsque Dieu devient visible, est clair, vous ne pouvez pas supporter. Vous refusez de croire. Tant qu'il n'a pas de nom, vous pouvez le modeler comme vous voulez dans votre tête, mais lorsqu'il devient visible, et il est ceci et pas cela, vous dites non, c'est pas possible. Vous voyez? C'est ce péché que nous devons montrer aux gens. Il convaincra le monde du péché parce qu'il ne croit pas en Dieu lorsqu'il vient de manière palpable et claire. En Jésus-Christ. Donc vous voyez ce qui est intéressant, c'est que la première chose que le chrétien fait dans son témoignage, pour montrer aux gens leur péché, il peut utiliser les 10 commandements pour leur montrer, mais en plus, il utilise Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans son incarnation, dans sa présence sur terre, et la réaction des hommes par rapport à ça qui montre à quel point nous sommes rebelles. Deuxième point. Nous lisons dans Jean chapitre 16 encore, et cette fois le verset 10. De justice, donc il convaincra, le Saint-Esprit convaincra les hommes de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez pas. Qu'est-ce que la justice ? C'est la première question. On a dit qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la justice. C'est l'opposé du péché. J'ai dit que le péché, c'est le fait de rompre l'ordre de Dieu, violer les droits de Dieu et se mettre en tort avec Dieu. La justice, c'est ce qui rétablit l'ordre de Dieu, satisfait les droits violés de Dieu, et remet l'homme en règle avec Dieu. D'accord ? C'est ça l'idée biblique. Ça ne parle pas d'une justice vague, mais comme je peux vous le montrer comme ceci. Le problème du premier point, c'est qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi en tant que quoi ? Homme intéressant ? Homme bon ? Simple humain, mais très bon. Non, il ne croit pas en moi en tant que Dieu fait homme pour être le sauveur du monde. Et donc, quand il dit, il convaincra de justice, il est dans le même registre. Pas ma justice en tant qu'homme bon, simplement, mais il convaincra le monde de cette justice divine et salvatrice que je suis venu apporter aux hommes en tant que solution au péché. Ça va? Excuse-moi, je tâtonne un peu. Mais, d'accord? C'est la justice de Christ qui sauve. En d'autres termes, la justice, c'est ce qui remet l'homme d'aplomb avec Dieu. Le remet en règle avec Dieu. Paul a dit ceci en Romains 1. Écoutez bien parce qu'il utilise le mot justice dans le sens que je viens de vous dire. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Salut. Car en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu. Pour la foi, par la foi et pour la foi. Ça veut dire que la justice de Dieu, c'est le Dieu juste qui vient remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire, Christ, quand il vient, il obéit à l'ordre de Dieu, là où vous ne l'avez pas fait. Il satisfait les droits de Dieu que vous avez usurpés. Il satisfait Dieu là où il a été. C'est ainsi qu'il paye vos dettes et il vous remet en règle avec Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut que vous parliez de vos amis de cette justice de Jésus-Christ, de la manière dont il a réglé ce que vous avez mis à l'envers, le tort, la culpabilité que vous avez en raison de votre péché? C'est clair, parce que sans ça, il n'y a pas de voie vers Dieu. Vous devez leur parler du péché, mais aussi qu'est-ce qui règle le péché. Qu'est-ce qui satisfait la justice violée. Jésus satisfait la justice violée lorsqu'il obéit et lorsqu'il est puni à notre place. Maintenant, quelle est la preuve que vous pouvez donner à vos amis que Jésus-Christ et son œuvre sur la croix, c'est ça qui nous remet en règle avec Dieu. C'est ça qui répare la relation brisée avec Dieu. Alors, dans le passage, Jésus dit, le Saint-Esprit les convaincra de justice parce que je m'en vais vers le Père et vous ne me verrez plus. La preuve que c'est Jésus et sa croix qui peut vous remettre en relation avec Dieu, c'est son départ vers le Père, sa résurrection définitive vers Dieu. Maintenant, regardez dans le verset 5, parce que pour comprendre cela, ça peut vous sembler bizarre, mais il faut que nous comprenions ce dont Jésus parle. Le verset 5, il venait de dire, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Donc, quand Jésus nous dit, « Le Saint-Esprit vous convaincra, vos amis, de la justice qui sauve, qui vient de moi, et la preuve qui les convaincra que c'est Jésus qui sauve, c'est qu'il est ressuscité, qu'il est allé vers le Père, définitivement. » Ce que Jésus veut dire, c'est ceci. Parce que je m'en vais vers le Père, c'est pas juste que j'étais ici à un moment donné et maintenant je suis là. Ça ne prouve rien, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, je suis là comme quelqu'un qui a été envoyé. Verset 5, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est envoyé par un patron, pourquoi est-ce qu'il revient? Pourquoi est-ce que le patron dit, ok, c'est bon, reviens? Normalement, c'est parce qu'il a accompli, il a achevé ce pourquoi il a été envoyé. Ça y est, c'est bon. Quand Jésus dit, il convaincra du monde de justice parce que je m'en vais, ça veut dire parce que je retourne au Père, signe que j'ai accompli l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé. Mon retour au Père, c'est la preuve que ça y est, tout est fait. L'œuvre du salut est accomplie. Je n'ai pas besoin de rester encore ici parce que je l'ai fait. Je suis le seul homme qui ressuscite dans le corps vers le Père. Je suis donc les prémices de toute une famille que je vais entraîner vers moi. Mais dans mon départ, vous voyez ce que je peux faire pour vous aussi. Vous voyez? Comment est-ce que vous pouvez être sûr que Jésus peut vous mettre en règle avec Dieu? Simplement parce qu'il s'est mis en règle avec Dieu. Quand il est parti, rappelez-vous, avant de partir sur la croix, il est chargé de culpabilité. Il n'a pas de place auprès du Père, tel qu'il est sur la croix, chargé de vos péchés. Donc, si maintenant il peut aller vers le Père, c'est qu'il a dû pouvoir se débarrasser de vos péchés, lui-même. Et son départ définitif vers le Père montre qu'il peut vous amener là aussi. Donc les chrétiens, vous n'avez pas besoin d'expliquer ça dans les termes aussi compliqués que moi aujourd'hui. Parce que dans les sermons, dans le livre des Actes, nous voyons cela dit de manière très succincte et très simple. Le Saint-Esprit, c'est son travail de montrer et de convaincre que Jésus sur la croix est à ma place, il paie la dette, comme il a tout payé, il peut rentrer chez lui. Et nous voyons ça, par exemple, prenez Actes chapitre 13, nous le voyons dans la prédication, dans manière de prêcher, il parle du départ de Jésus comme la preuve que lui, il peut sauver. Chapitre 13, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Et voilà la preuve, comment je sais, Dieu l'a accomplie. En ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré, » parlons de la résurrection, « aujourd'hui. » qu'il a ressuscité d'entre les morts de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. Hein? Je m'en vais vers le Père et vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, c'est un départ définitif. Je ne reviens pas dans un état corrompu. Ce qu'il avait dit, je vous donnerai les choses saintes de Dieu, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. Ici, plein de versets qui prouvent que Jésus est ressuscité. Maintenant, regardez bien. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, puisque Jésus est ressuscité. Par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tous ceux dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. D'accord ? Dans un sens, c'est simple. Dieu envoie Jésus pour porter mes péchés et en payer la dette. Si Jésus est ressuscité, c'est qu'il a fait tout cela. Et Dieu donne une preuve éclatante que c'est par lui que vous pouvez maintenant venir à Dieu. Et quand on dit une chose facile et simple comme ça, aux gens, le Saint-Esprit est envoyé pour convaincre les gens de cette justice en leur montrant que oui, c'est pour cela qu'il est ressuscité. C'est la preuve qu'il a payé la dette de nos péchés. Et enfin, il nous convainc, il convainc le monde de jugement. Pardon. Oui, je ne sais pas où j'en suis. Bon, tu vois. Qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que le jugement? J'ai dû permuter une feuille, c'est pas grave. Le jugement, c'est le renversement de l'état des choses lorsqu'il y a un crime, une violation de loi. Quelque chose qui n'aurait pas dû être, un jugement du tribunal vient remettre les choses comme ils auraient dû être. Les droits violés, la personne qui a raison, a gain de cause, est mise dans la position du juste. La personne qui a tort et reçoit la sentence, ce qu'il a usurpé lui est dépouillé, enlevé, c'est ça le jugement, n'est-ce pas? Et son droit et son autorité de continuer à faire du mal à l'autre lui est enlevé. S'il faut le mettre en prison, il est mis en prison. Et donc, il ne peut plus faire le mal qu'il faisait avant. C'est ça. Le jugement est un renversement de l'état de choses, une remise d'aplomb des choses. Jésus dit que quand nous parlons à nos amis, il faut qu'on parle du jugement à venir. Il convaincra du jugement. Encore, le mot est général, ça signifie le grand jugement qui vient. Il faut que les gens sachent un jugement final vient. C'est-à-dire, tout ce qui s'aligne du côté du péché, d'être contre Dieu et Jésus-Christ, vous allez tomber sous la sentence. Vous allez être dépouillé de tout ce que vous avez pris de Dieu et vous n'aurez plus le pouvoir de pécher contre Dieu. Vous allez être dans l'état de condamné. Et Dieu aura raison. Jésus-Christ aura la victoire. Il aura gain de cause. Donc, vous avez, avant que ce moment arrive, alignez-vous du bon côté. N'est-ce pas? Si vous êtes aligné du côté de Christ, tout sera bien pour vous. Sinon, sachez que le jugement vient. Dieu va trancher. Et pourquoi avons-nous besoin d'être convaincus du jugement si nous sommes des non-chrétiens qui entendent l'Évangile? Tout simplement parce que la raison pour revenir à Dieu, ce n'est pas juste pour être heureux dans ce monde. Il y a une éternité à venir. Les enjeux sont cosmiques, éternels et beaucoup plus grands que « est-ce que je suis heureux dans mon petit coin ici ?» Nous sommes des âmes immortelles. Nous vivons devant Dieu éloignés de Dieu pendant toute éternité. C'est ça l'enjeu. C'est ça qui doit pousser les gens à dire « il faut que je me mette en règle avec Dieu ». Et quelle est la preuve que il y a vraiment un jugement? Quelle est la preuve que le Saint-Esprit utilise quand il convainc le monde du jugement? Alors Jésus dit dans ce verset, car le prince de ce monde est jugé. Je retrouve juste le verset. Il dit dans le verset 11, du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'il va y avoir un jugement final et global parce que le chef du coup d'État contre Dieu, lui-même, celui qui a tout commencé, il a déjà été jugé. À la croix, Satan est dépouillé de son autorité de tromper les hommes, de les tenir sur sa prise. Et nous le voyons dans les miracles des apôtres, qui commencent à exorciser, à délivrer les âmes de toutes sortes de choses de diable. Nous le voyons dans l'afflux des gens qui commencent maintenant à quitter le royaume des ténèbres et venir à la lumière et à Christ. Et nous le voyons que dans le fait que dans les pays païens, qui autrefois Satan tenait dans sa main, maintenant ces pays sont débloqués et les gens dans les pays païens viennent au Seigneur. Nous voyons que le chef de la rébellion contre Dieu a déjà reçu sa sentence. Et ça signifie ce changement, ce changement de rapport de puissance dans le monde, dans lequel il est évident que quelque chose est arrivé à Satan. Ça nous montre que, attendez, le reste vient. Si le patron du péché a été dépouillé, vous aussi, vous le serez, si vous ne vous repentez pas. Nous voyons cela dans la prédication des apôtres. Comme j'ai été lent, je vais juste vous dire que, par exemple, en Actes 17, si vous voulez aller regarder, que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde à travers un homme de son choix, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Parce que dans la croix, nous voyons donc l'humanité représentée par Jésus au tribunal avec Satan, comme Epaphras nous a prêché la semaine passée. Et quel est l'aboutissement de ce procès? C'est pas comme au début, quand Satan a amené Adam à pécher. Jésus refuse de pécher. Il va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même quand Satan triche et il tue un homme innocent. Cet homme innocent ne cède pas à la tentation de se délivrer de la croix, il reste attaché à Dieu et Satan, qui a condamné l'innocent, est maintenant lui condamné à cause de cette croix dans laquelle le deuxième Adam reste obéissant. Et dans la résurrection de Jésus, nous voyons le verdict de Dieu. C'est lui qui a raison. Il a ressuscité des morts, nous voyons qu'un jugement vient. Et le jugement sur Satan est déjà effectué. Quand nous parlons à nos amis, nous devons donc leur dire qu'il y a un jugement qui vient. Et nous devons aussi leur dire que la preuve est la résurrection de Christ. Christ est ressuscité. Il a été condamné par les hommes et par Satan qui était derrière les hommes. Mais Dieu a renversé cette sentence. Il a dit non, c'est lui qui a raison, c'est le monde des hommes qui l'ont crucifié et Satan qui est derrière ça, qui a tort. Et donc cette sentence va se répercuter de manière cosmique un jour. Et il faut que les hommes se repentent parce que ce jugement vient. Et celui qui a été jugé, il vient pour juger. Voilà, donc j'ai pas simplement que je vous ai probablement tellement embrouillé et découragé en rendant cela compliqué. Je voulais que vous compreniez, mais quand vous allez dans les prédications, dans les actes, vous pouvez dire ces choses de manière simple. D'accord? L'homme est L'homme est pécheur. Voilà une preuve. Quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Et même vous, vis-à-vis de ce Dieu qui est venu, regardez votre incrédulité. Deuxièmement, la justice. Christ est venu pour payer les dettes. Il est rentré chez lui parce qu'il a payé la dette. Donc, il peut vous sauver. Sa résurrection le prouve. Et le jugement final, nous voyons que Satan a perdu sa place dans ce monde. Quelque chose a changé. Ce jugement qui a commencé avec lui va finir avec tout son royaume de ténèbres. Donc, sortez vite de ces ténèbres. Et quand nous prêchons ce message au sujet du péché, du salut de Christ et du jugement, nous devons surtout prier avant de parler aux gens, prier que le Saint-Esprit soit envoyé vraiment dans cette œuvre de conviction qui ne peut pas venir de notre manière de parler et où nos arguments sont tellement bien ficelés. Il y a quelque chose d'autre qui fait que les hommes deviennent convaincus. Il y a une puissance surnaturelle qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ça, c'est sur cela que nous devons compter. Que le Seigneur nous donne la foi dans son œuvre par le Saint-Esprit.